Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Avril 2018. Édition de Jubilé. 1948, 2018. 70 ans, Israël. 1958, 2018. 60 ans. Mission populaire libre, Krefeld. Je vous salue tous très cordialement dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, avec Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le prophète Michée alla vers les 400 prophètes qui avaient prophétisé sous une fausse inspiration, et dit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » 1 Roi 22, 14. C'est aussi ma décision depuis le début. À la fin de son message, l'homme de Dieu put s'exclamer. Vous tous, peuple, entendez. 1 Roi 22, 28. Une voix authentique s'exclame, aussi, maintenant. Vous tous, peuple, entendez. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, 2. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc 21, 33. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre 1, 25. Seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, devrait être valable pour nous. Qu'il s'agisse du récit de la création, ou du plan de la rédemption, ou de toutes les doctrines, nous laissons Dieu, lui-même nous parler au travers de sa parole. Nous laissons les interprétations et les théories à ceux qui ne croient pas Dieu. Nous voyons déjà la première différence entre la réalité de la création et la théorie de l'évolution. Celui qui ne croit pas ce qui est écrit dans le premier verset, c'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, aura des difficultés jusqu'au dernier verset de la Bible. Ce qui était dans l'éternité, et ce qui sera dans l'éternité, nous le laissons au Dieu éternel. Nous remontons au commencement des temps, et principalement au début du temps de la grâce. Notre principale préoccupation dans cet exposé, est de souligner brièvement les époques suivantes. Le passage de l'Ancienne, à la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament. La fondation de l'Église de Jésus-Christ, et le temps des apôtres. La période des 300 premières années jusqu'au Concile de Nicée. Les 1000 ans du sombre Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle. La Réforme, et les 500 ans qui suivirent, et ce qui s'est réellement passé. Le dernier message avant la seconde venue de Christ. Lequel retentit maintenant. Tout d'abord, il est très important de savoir, et de croire que Dieu fait tout, selon les promesses qu'il a faites dans sa parole. Reconnaissez de tout votre cœur, et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Josué 23, 14. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont proclamé à l'avance sous l'inspiration du Saint-Esprit nous est montré dans leur accomplissement par les apôtres, dès le premier verset du Nouveau Testament, car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'a le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20. La transition de l'Ancien au Nouveau Testament. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Luc 16, 16. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ésaïe 40, 3. Cette prophétie s'est accomplie par le ministère de Jean-Baptiste. Comme cela est confirmé dans Matthieu 3, 3, Marc 1, 3, Luc 3, 4, et Jean 1, 23. L'ange du Seigneur, qui annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, dit, « Il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Luc 1, 15 à 17. Amen. Après sa naissance, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit, et prononça les paroles prophétiques concernant le ministère de Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance. Luc 1, 72. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Luc 1, 77. La deuxième promesse dans l'Ancien Testament, concernant le ministère de Jean-Baptiste, qui se trouve dans Malachie 3, 1, a été confirmée par le Seigneur lui-même dans Matthieu 11, 10 et Luc 7, 27. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Quand on demanda à Jean, « Es-tu le Christ ?» Il dit, « Non. » Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Jean 1, 19 à 21, au verset 23, nous lisons son témoignage basé sur l'Écriture sainte, montrant qui il est. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Esaïe 40, 3. Jean pouvait dire en s'adressant à son auditoire croyant, « Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3, 11. Par le ministère du précurseur promis, le cœur des pères de l'Ancien Testament a été ramené à la foi des enfants du Nouveau Testament, et un peuple bien disposé a été préparé pour le Seigneur. Luc 1, 17. Il était absolument important d'entendre le message du prophète promis, de croire, et d'être baptisé. Jésus a réprimandé devant le peuple les scribes, et les pharisiens qui ont rejeté le ministère de Jean-Baptiste, disant, « Mais les pharisiens, et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Luc 7, 30. Une voix crie avec force. Il était possible de baiser la Torah, de lire les saintes Écritures, de parler du salut de Dieu, de prêcher la venue du Messie, et de son précurseur Élie. Matthieu 17, 10. De chanter les psaumes, d'observer le sabbat, d'offrir les sacrifices, puis de rejeter à la fois le précurseur, et le Messie, et de ne pas reconnaître le jour de la visitation miséricordieuse de Dieu. Luc 19, 42 à 44. La grande leçon est que seuls ceux qui ont cru au message du précurseur, et qui ont été baptisés, ont reconnu, et reçu le Messie. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père, Galates 4, 3 à 6. Alors que la promesse de Zacharie 9, 9 s'accomplissait, et que le Seigneur entrait à Jérusalem sur le dos d'un ânon, Luc 19, 28 à 44, les croyants se sont réjouis, et criaient, Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Les scribes spirituellement aveugles voulaient faire cesser leur louange, et leur adoration. Verset 39. Mais le Sauveur leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Puis il regarda sur Jérusalem, et pleura de chagrin. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Alors suivit l'annonce de la sentence. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Versets 41 à 44. En 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus détruisit Jérusalem, ainsi que le temple avec son armée. Maintenant aussi, il est d'une importance primordiale d'avoir part à ce que Dieu a promis pour ce temps. Une voix crie avec force. Depuis Adam et Ève, 4000 ans sont passés, durant lesquels on attendait que le Sauveur promis vienne en tant que semence de Dieu. Genèse 3, 15. Quand le temps de l'accomplissement fut arrivé, les chefs spirituels et les gens qui les croyaient ne reconnurent pas le jour de la visitation de Dieu. Les chefs religieux aveugles étaient des conducteurs d'aveugles qui égaraient le peuple par leurs propres interprétations des Écritures. Pour ceux qui ne croyaient pas au Messie, il est dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Cependant, au sujet des croyants, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, 11 et 12. Amen. Ce fut ainsi au commencement. Ce fut ainsi dans chaque âge de l'Église. C'est encore ainsi aujourd'hui. La fondation de l'Église de Jésus-Christ à Jérusalem. La fondation de l'Église a eu lieu d'une manière surnaturelle par l'effusion du Saint-Esprit. Dans Actes 1, il nous est dit que le Rédempteur ressuscité a passé 40 jours avec ses disciples, et leur a parlé du royaume de Dieu. Verset 3. Il a répété la promesse, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 5. Dans Luc 24, 36 à 51, le Seigneur ressuscité avait montré à ses disciples quelles étaient les Écritures de l'Ancien Testament qui s'étaient accomplies. Il leur ouvrit la compréhension spirituelle, afin qu'ils reconnussent toutes les prophéties relatives à sa souffrance, à sa mort, à sa résurrection. Il dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Versets 46 et 47. Et il termina avec ces paroles, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Verset 49. Après cela, il fut élevé au ciel sous leurs yeux. Luc 24, 51. Acte 1, 9. Après l'effusion de l'Esprit, l'apôtre Pierre put témoigner le jour de la Pentecôte, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Actes 2, 16 et 17. Pierre a tenu le premier sermon sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. À partir du verset 37 jusqu'au 41, il nous est relaté ce qui est arrivé, lorsque la multitude fut saisie par la prédication. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » D'abord la prédication, suivie de la foi des auditeurs, et de l'obéissance dans le baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 41. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. Le jour de la Pentecôte fut tenu le sermon fondamental, qui était valable partout à l'époque des apôtres, et qui est encore aujourd'hui valable dans l'Église de Jésus-Christ. Dès le début, dès le premier jour du Nouveau Testament, tout ce qui fait partie du plan du salut est arrivé, comme cela a été annoncé dans l'Ancien Testament. Paul témoigne de ce fait dans sa première épître. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Romains 1, 1 et 2. Amen. L'évangéliste Philippe prêcha en Samarie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 12. Ayant entendu cela, les apôtres vinrent de Jérusalem et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Versets 15 et 16. Dans Acte 10, Pierre a prêché l'évangile de Jésus-Christ dans la maison du centenier romain, Corneille. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Acte 10, 42 à 48. Quand Paul prêcha à Éphèse, aux disciples de Jean, nous lisons dans Acte 19, 5, 6 et 11, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et prophétisaient. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, ce que Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte s'applique encore à tous les croyants dans le monde entier, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Une voix crie avec force. Dans l'Église de Jésus-Christ, la première et la dernière prédication, le premier et le dernier baptême doivent être exactement identiques. C'est le modèle éternel de la proclamation, la foi, le baptême du Saint-Esprit. Ce qui a été enseigné et vécu le jour de la fondation de l'Église du Dieu vivant, est la ligne directrice jusqu'à la fin du Nouveau Testament. L'apôtre Paul atteste que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11 et 12. L'apôtre écrit à Timothée, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. La première église était le corps du Seigneur, le lieu où Dieu se révèle, revêtu de la puissance de Dieu avec les dons spirituels, et divers ministères. 1 Corinthiens 12, 4 à 31. Unis en un seul corps par la foi. Le baptême, et le baptême de l'Esprit. Chapitre 12, verset 26. Ce n'est que là où il en est ainsi, que s'applique encore aujourd'hui, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, 3 à 5. Au retour de Jésus-Christ, cette écriture sera accomplie pour l'Église. Afin de la sanctifier en la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, et irréprochable. Éphésiens 5, 26 et 27. Écoutez, croire, et expérimenter la prédication de la grâce de Dieu, de la rédemption, de la justification, et de la réconciliation avec Dieu, signifie, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Dans la parole de Dieu, nous devons tout laisser, et tous les croyants bibliques le font également, tel que cela a été établi au commencement. La période jusqu'au concile de Nicée. Dans la première lettre aux églises, dans Apocalypse 2, 2, le Seigneur fait un éloge à son église. « Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Paul, dans de nombreuses lettres, spécialement dans ses exhortations aux Thessaloniciens, et à Timothée, a exprimé son inquiétude sur l'apostasie qui viendrait, au lieu de la vraie foi. L'apôtre, a dû, réprouver l'église de Corinthe, par ses mots. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 3 et 4. Dans Galates 1, 6 à 8, l'apôtre prononça la malédiction sur tous ceux qui prêchent un autre évangile. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le sujet est très, très sérieux. Comme le serpent, au début de la création naturelle dans le jardin d'Éden, sema le doute sur la parole que le Seigneur Dieu avait dite à Adam avec l'argument, « Dieu a-t-il réellement dit ?» et ainsi l'incrédulité surgit. Et la séduction d'Ève put se concrétiser, de même aussi en est-il dans le temps apostolique qui s'est écoulé, et par la suite, jusqu'à nos jours, des doutes sur la parole, l'incrédulité, la désobéissance, la chute de l'Église, l'apostasie. Les deux images sont une bonne représentation du jardin d'Éden. La parole de Dieu a été remise en question. Des propres interprétations et enseignements ont été introduits. Partout où cela est arrivé, toute adoration fut en vain, comme le Seigneur avait dû dire aux Juifs, à l'époque. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc 7, 6 et 7. De même, ce que Jésus a dit aux scribes qui avaient leurs propres enseignements, s'applique encore aujourd'hui. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 45 et 47. Il existe toujours deux semences spirituelles différentes. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Matthieu 13, 37 et 38. Le véritable culte à Dieu ne peut venir que d'un cœur pur et renouvelé. Notre Seigneur a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23 et 24. Celui qui n'adore pas étant conduit par le Saint-Esprit selon la parole de Dieu, adore Dieu en vain. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apostasie finale, et l'homme, impie, qui la représente, ont déjà été annoncés par Paul. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 4, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Versets 10 et 11. Ceux qui ne respectent pas, et ne croient pas la parole de Dieu comme la seule vérité valide, pour eux-mêmes, et pour l'Église, sont condamnés à croire des mensonges religieux. Ce qui s'est passé dans l'ère post-apostolique est incompréhensible. Des hommes qui étaient honorés en tant que pères de l'Église ont présenté leur doctrine influencée par le paganisme et ont trouvé des disciples. Les soi-disant pères de l'Église étaient des personnalités chrétiennes, mais pas des apôtres de Jésus-Christ. Aucun d'eux n'avait une prévocation divine. Les plus connus sont Athanase, Augustin et Jérôme. C'étaient des hommes venant du paganisme hellénistique, qui, souvent, n'avaient même pas vécu une véritable conversion à Christ, et étaient encore liés à des superstitions, et ils ont introduit leurs propres idées dans le christianisme. Depuis l'année 313, Datou l'empereur Constantin a déclaré officiellement le christianisme désormais sécularisé comme religion d'État. Un développement tragique a eu lieu. Du 20 mai au 25 juillet 325, il invita les évêques de diverses confessions au concile de Nicée. À cette époque, il y avait déjà 127 tendances chrétiennes dans les pays qui appartenaient à l'Empire romain. Après des âpres discussions et des disputes virulentes, une croyance trinitaire complètement non biblique, laquelle n'était pas approuvée de tous, fut formulé sous la présidence d'Athanase. Concernant le Fils de Dieu, il y est formulé, un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Les Pères de la Chrétienté, page 40. Dieu n'a jamais engendré, et encore moins enfanté un Fils éternel jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu de Fils éternel. Pendant les 4000 années de l'Ancien Testament, aucun prophète n'a parlé d'un Père dans le ciel, ou même d'un Fils, mais par contre plus de 4000 fois de Dieu, le Seigneur, Elohim Yahvé. Dans les Épîtres, depuis Romains 1, 7, nous trouvons toujours la formule de salutation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas une seule fois nous y trouvons, de Dieu le Fils, ou, de Dieu le Saint-Esprit. Aussi certain que Dieu Elohim, qui est éternel, s'est révélé en tant que Seigneur, Yahvé, a marché sous une forme visible dans le jardin d'Éden, et a créé Adam, À son image, le même Dieu s'est aussi révélé en tant que Père céleste dans son seul Fils engendré sur la terre. Par conséquent, le Seigneur Jésus pouvait dire, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 9. Pour nous racheter, Dieu s'est révélé dans un corps de chair. 1 Timothée 3, 16. La promesse de la naissance du Fils en tant que Rédempteur se retrouve dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Certains d'entre eux sont « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » 2 Samuel 7, 14. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, 7. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Psaume 22, 10 et 11. Lui, il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, 27 et 28. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ésaïe 7, 14. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Jamais, Fils éternel. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Michée 5, 1. Lorsque le temps fut accompli, la chose arriva. C'est ce que Matthieu écrivit dans son premier chapitre. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ésaïe 7, 14. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 22 et 23. Tout ce qui est en rapport avec la naissance du Fils de Dieu nous est décrit en détail dans le premier et le deuxième chapitre de Luc. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » En hébreu, « Yeshua. » Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 30, 31, 35 et 38. Une voix crie avec force. « Vous tous, peuple, entendez. C'est l'heure de la vérité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. » Uniquement ce qui se trouve dans la Bible est biblique, et uniquement ce qui a été enseigné, et pratiqué par les apôtres est considéré, apostolique. L'élaboration du credo trinitaire, qui a été appelé à tort, credo des apôtres, et qui a été établi en 325 au concile de Nicée, et à Constantinople en 381, n'a rien en commun avec la Bible, et avec la confession apostolique authentique de l'Église primitive. Au Concile de Nicée, le Fils a été déclaré deuxième personne, et dans le Concile de Constantinople, le Saint-Esprit comme la troisième personne de la divinité. Peu de temps après, en 385, Jérôme a ajouté un complément, correspondant dans sa traduction vulgate en latin, au septième verset de 1 Jean 5, à savoir, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et les trois sont un. 300 ans après les apôtres, il ne restait plus grand-chose de l'enseignement des apôtres. Dans le texte original hébreu et grec, dans 1 Jean 5, verset 7, il est dit seulement, car il y en a trois qui rendent témoignage, et ensuite, l'esprit, l'eau, et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Versets 8 et 9, Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 5. L'apôtre Pierre a pu témoigner, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 2 Pierre 1, 18. Martin Luther a rejeté la traduction de la Vulgate. John Wycliffe, par contre, a traduit de la Vulgate dans la langue anglaise, et donc le texte ajouté est encore dans la Bible King James aujourd'hui. Bien qu'il soit relevé par une note de bas de page que ce texte, « Des trois dans le ciel », n'est pas dans l'original, le complément peut encore être lu dans toutes les traductions qui remontent à la Vulgate. Dans les éditions allemandes, par exemple dans la Bible de Zurich, de 1535, ou la Bible de Luther, de 1543, et jusqu'à ce jour, grâce à Dieu, nous trouvons la reproduction correcte du texte original. La Bible se compose de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Rien ne peut être ajouté à un testament, rien ne peut y être modifié. L'apôtre Paul écrit, « Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. » Galates 3, 15. À la fin du Nouveau Testament, il est écrit dans Apocalypse 22, 18 et 19, ce double avertissement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Depuis la formation des églises chrétiennes au IVe siècle, toutes les doctrines bibliques ont été abolies, et Jésus-Christ, le Rédempteur, a été mis au second rang. Aucune des décisions du Concile, ou des dogmes proclamés dans l'histoire de l'Église n'est biblique. Outre cela, la Bible ne parle nulle part d'un représentant du Christ, ou d'un successeur de Pierre. L'Église catholique a attribué les paroles de Jésus dans Matthieu 16, 18, à la fonction papale. Toutefois, le Seigneur Jésus n'a pas dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église sur toi, mais, que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Et le rocher est Jésus-Christ. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. Aucune église d'État, ou autre, n'est l'église bâtie par Christ, le Rédempteur. Pas plus la catholique que l'orthodoxe, ni la copte, ni la chaldéenne, ni la syrienne, ou encore l'égyptienne. Ce sont toutes des églises chrétiennes, mais pas l'église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est composée uniquement de croyants bibliques. Ce qui est tragique, c'est que chaque Église, y compris les Églises anglicanes et luthériennes, donne à ses membres l'impression que leur salut est garanti. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune Église n'a jamais sauvé personne. Mais toutes les personnes dans toutes les Églises, et religions peuvent être sauvées par la foi en Jésus-Christ, au moyen d'une conversion, par l'expérience personnelle du salut. Acte 3, 19. Les empereurs, les rois, et les souverains ont déterminé la religion d'un pays. C'est ainsi que le monde fut divisé en plusieurs religions, ici le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme. Ici les sunnites, là les chiites, là les alévis, et les alaouites. Ici les catholiques, là les protestants. En Asie et en Afrique, les chefs tribaux, ont établi leur religion. Mais Dieu n'est dans aucune religion, Dieu s'est révélé seulement en Jésus-Christ, et nous pouvons rencontrer Dieu uniquement dans le Rédempteur. 2 Corinthiens 5, 19. Dans les églises chrétiennes, les sacrements ont remplacé la foi salvatrice en Jésus-Christ, le Rédempteur, bien que la Bible témoigne clairement de la foi personnelle. Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Selon la doctrine de l'Église, l'aspersion, ou le fait de verser un peu d'eau sur le front des bébés, ou des adultes, constituerait la nouvelle naissance, par l'eau et l'esprit. Jean 3, 5. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'aspersion remonte à Constantin, qui, en juillet 337, couché sur son lit de mort, fut aspergé trois fois sur son front par Monseigneur Eusèbe, qui fut le premier à utiliser la formule trinitaire au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est dit que Constantin est devenu chrétien. Mais il a invoqué, seul, le Dieu-Soleil, jusqu'à sa mort. Le repas du Seigneur a également été complètement mal interprété, bien qu'il soit clairement décrit dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, concernant la transformation du pain, ou de l'hostie, en corps de Christ, ou encore du vin en sang de Christ. Au contraire, notre Seigneur dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, 29. Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 34, il est aussi écrit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Le réformateur suisse, Ulrich Zwingli, a rejeté la doctrine de la transsubstantiation de la messe, et a soutenu résolument le point de vue biblique. Donc, la messe n'est rien d'autre que le reniement du seul sacrifice, et de la souffrance de Jésus-Christ, ainsi qu'une idolâtrie hautement condamnable. Heidelberg, Catéchisme, question 80. Le Christ n'a pas à être sacrifié de nouveau tous les jours par le prêtre, mais il s'est sacrifié une fois pour toutes, et a accompli la rédemption éternelle. C'est ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mais Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Amen. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Amen. La béatification et la canonisation des morts sont également étrangères à la Bible. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, le Seigneur Jésus a donné 9 béatitudes aux croyants vivants. L'une d'elles est, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », etc. Pour ces véritables disciples, s'applique encore aujourd'hui, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Matthieu 13, 16. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Heureux, et saints, ceux qui ont part, à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 6. De même, la Vierge Marie qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, fut nommée bienheureuse à cause de sa foi. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc 1, 45. Même si elle a été élue mère du Sauveur, elle aussi dut expérimenter le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il est parlé d'elle pour la dernière fois, alors qu'elle se trouve avec les 120, qui étaient rassemblés pour la prière dans la chambre haute, dans Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le terme « mère de Dieu » n'existe pas dans la Bible. Élisabeth dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Luc 1, 43. Aucun enseignement, aucune pratique, plus rien au sein de l'Église de l'Empire n'est encore en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Chaque enseignement a été modifié et décoré seulement de citations bibliques. À ce point, des déclarations telles que « On ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère » ne servent à rien. La Bible ne parle aucunement d'une ascension corporelle de Marie, ou d'apparition mariale, mais au contraire, elle atteste « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jean 3, 13. La Bible ne parle pas non plus qu'elle serait médiatrice. Mais il y est écrit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. Pareillement, il n'y a aucune mention de Marie en tant qu'avocate, mais nous lisons, « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1 et 2. Amen. Le développement tragique a pris son cours, depuis que le christianisme a été reconnu en tant que l'Église d'État. Avec l'introduction de la doctrine de la Trinité, les paroles de l'ordre de mission de Matthieu 28, 19, relatif au nom de l'Alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé comme le Père dans le Fils, et par le Saint-Esprit, et dans lequel il faut être baptisé, ont été transformés en une formule établie, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, laquelle est totalement étrangère à la Bible. Pour l'Église de Jésus-Christ s'applique encore aujourd'hui. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Et puis, les Juifs furent également tenus de reconnaître la Trinité. Mais il leur était impossible d'accepter un Dieu divisé en trois, car le premier commandement venant de la bouche de Dieu était « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Exode 20, 2 à 4. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut, dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, 39. L'introduction de la confession trinitaire a également conduit à la persécution des Juifs. Ils ont été maudits et stigmatisés comme étant les meurtriers de Christ et de Dieu. Expiés par eux, la mort du crucifié était proclamée à haute voix. En 321, il leur fut interdit d'observer le sabbat, et le dimanche fut édicté à la place. Les synagogues furent transformées en étables pour le bétail. L'énorme différence entre l'Église de Jésus-Christ et l'Église impériale établie est également illustrée par l'explication suivante. Pape et empereur, en tant que porteur d'un ordre chrétien mondial. Grande histoire illustrée de l'Église, page 74. À son autorité, du pape, se rattachent deux épées, la spirituelle et la temporelle, comme l'enseigne l'Évangile. Luc 22, 38. Les deux épées appartiennent donc à l'autorité de l'Église, la spirituelle et la temporelle. En effet, l'une est pour conduire l'Église, l'autre est conduite par l'Église, l'une par la main du prêtre, l'autre par les rois et les soldats, toutefois sous l'ordre et la tolérance du prêtre. Grande histoire illustrée de l'Église. Nous nous rendons compte de leur aveuglement total. Les deux épées qu'un homme portait avec lui. Luc 22, 36 à 38, mentionnées en relation avec la souffrance du Christ, ont été déviées de leur sens pour justifier l'exercice du pouvoir. Comment était-il possible que l'on ait conclu de ces versets que l'Église aurait reçu deux épées, soit la spirituelle et la temporelle? Le Sauveur lui-même, dans ce contexte, a déclaré qu'il serait mis à mort comme un malfaiteur. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi, il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 37. Il a seulement été donné à l'Église de Jésus-Christ l'épée de l'Esprit, comme symbole de la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Mais jamais il n'a été question d'une épée temporelle. Jamais l'Église de Jésus-Christ n'a persécuté les autres, mais elle a été elle-même persécutée. C'est ce dont témoigne l'histoire. Le Seigneur dit aux apôtres, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jean 15, 20. Notre Rédempteur a ajouté un autre commandement aux 10 commandements. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. La doctrine des deux épées de l'Église a rendu nul le commandement, tu ne tueras point. Et tu es devenu un commandement. Les papes ont utilisé l'épée temporelle, et tous ceux qui ne se sont pas soumis ont été mis à mort. Celui qui lit le discours que le pape Urbain II a tenu à Clermont le 27 novembre 1095, dans lequel il a lancé l'appel aux croisés de tuer tous les ennemis, s'en fera une idée. Le pardon des péchés, et la rémission de toute transgression, étaient garantis aux croisés. Lorsque l'armée s'est emparée de Jérusalem en 1099, des dizaines de milliers de juifs, et de musulmans, et d'autres, ont été assassinés. Et il y en eut des millions durant les sept croisades, entre 1095 et 1272. La christianisation forcée, l'inquisition, la persécution des autres religions, les bûchers pour les sorciers, et l'assassinat des milliers de Huguenots en France en une seule nuit, à savoir du 23 au 24 août 1572, tout a été fait à la gloire de la Sainte Trinité, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Une voix crie avec force. Dans tous les temps, il y eut aussi des réveils spirituels. Les vrais croyants bibliques étaient toujours exposés à la persécution par l'Église, et souvent mis à mort, que ce soit à Albisriden, que ce soit les Vaudois, les Cathares, les frères tchèques, et d'autres. Ainsi, Lianus, à qui la parole de Dieu était devenue particulièrement précieuse, fut brûlé sur le bûcher à Constance, sous les rires des pères conciliaires, le 6 juillet 1415. Le sol a été trempé du sang des martyrs. Le poids de culpabilité que les papes ont amassé sur eux est unique sur terre. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 18, 24. Au jugement dernier, ils seront reconnus coupables devant ceux qu'ils ont fait assassiner en masse. Percée de la Réforme. Après 1000 ans de l'exercice du pouvoir absolu par l'Église, il y eut un renouveau spirituel, et un retour à la Bible. Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, Schwenkfeld, Erasme, Thomas Münzer, Melchior Hoffmann, et d'autres, qui protestaient contre le pape et l'Église, ont contribué à la percée de la Réforme. Les 95 thèses placardées sur la porte de l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517, est un fait bien connu. Le discours de Luther, le 17 avril 1521, devant l'empereur et les princes, à Worms, également. Ces déclarations sont bien documentées. Si je ne suis pas convaincu par le témoignage des Écritures, ou par des raisons claires, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile, puisqu'ils se sont souvent trompés, et qu'ils se sont souvent contredits eux-mêmes. Alors, je reste convaincu par les textes scripturaires que j'ai cités, et ma conscience est prisonnière dans la parole de Dieu. Je ne puis, ni ne veux révoquer quoi que ce soit, car il n'est ni sage, ni salutaire, d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu m'aide. Amen. Grande histoire illustrée de l'Église. Malheureusement, les églises nouvellement formées, l'Église luthérienne, la réformée, l'anglicane, ont aussi repris le credo de Nicée, et sont restées jusqu'à ce jour dans leur pratique du baptême des enfants, et dans la doctrine de la Trinité. En même temps, il y a eu d'autres réveils, notamment dans les zones protestantes, comme par exemple aussi, les anabaptistes. Dans le renouvellement spirituel, les prédicateurs de l'Évangile de Jésus-Christ ont de plus en plus mis l'accent sur les vérités bibliques. En premier lieu ont été prêchés le salut et le pardon par le sang de Christ. De nombreuses conversions ont eu lieu partout. John Smith, le fondateur des Baptistes, John Wesley, de qui provinrent les méthodistes, Menno Simons, de la proclamation duquel sortirent les Mennonites, William Booth, fondateur de l'armée du salut, Dwight Moody, George Muller, et beaucoup d'autres, ont prêché l'évangile en mettant l'accent sur la repentance, et la conversion à Christ, par une expérience personnelle du salut. La parole de Romains 5, 9, ne fut pas importante seulement pour Luther, mais pour tous les prédicateurs de l'Évangile. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La justification devant Dieu n'est pas obtenue par des propres œuvres, mais par la foi dans l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. On peut dire que les 500 ans depuis la Réforme ont servi, au travers des différents prédicateurs de réveil, à conduire les croyants plus profondément dans la parole de Dieu et dans une vie consacrée à Dieu. La vraie foi vient toujours de la prédication de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Il est déjà écrit d'Abraham, qui est considéré comme le père de la foi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 3. Hébreux 11, 8 à 10. Dieu seul est vrai, et tout homme est menteur. Romains 3, 4. Des milliers d'articles ont été écrits à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme en 2017. Et des centaines de manifestations ont eu lieu. Mais en considérant plus attentivement, Nous constatons que toutes les églises, et les églises libres, se sont arrêtées à ce qu'elles avaient établi en tant que credo lorsqu'elles ont été fondées. Maintenant, malgré toutes leurs divergences, les églises filles retournent dans le sein de l'église mère. C'est l'unité dans la diversité. Mais Jésus, le Rédempteur, parle d'une unité très différente, c'est-à-dire, l'unité avec Dieu en accord avec la parole, et la volonté de Dieu. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Le dernier message, proclamé maintenant, avant la seconde venue de Christ. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. Au début du XXe siècle, le réveil de la Pentecôte s'est déclenché par l'effusion du Saint-Esprit. Non seulement en 1906, sur la Azusa Street, à Los Angeles, mais sur tous les continents, les croyants expérimentèrent l'action surnaturelle du Saint-Esprit au cours de réunions de prières particulières. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les paroles du Seigneur dans Matthieu 24 eurent une importance toute particulière. Dans ce chapitre, Jésus a parlé de guerre, et de bruit de guerre, de famine, de peste, et des temps difficiles en considération des signes des temps. C'est pourquoi, dans les réunions de réveil de la première moitié du XXe siècle, la foi des gens était plus forte en ce qui concernait le retour imminent de Christ. Dans Luc 21, le Seigneur parla aussi de la fin des temps, disant, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Verset 31. Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Verset 36. Avec 60 millions de victimes de guerre, et 6 millions de juifs assassinés, la Seconde Guerre mondiale a changé le monde pour toujours. L'Allemagne et l'Europe étaient en ruine. Les effets de la guerre ont été ressentis partout dans le monde, même dans le Pacifique, où elle a pris fin par l'horrible bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Tous les croyants bibliques avaient l'impression que la fin du temps de la grâce était proche. Mais notre Seigneur a clairement déclaré ce qui doit se produire avant que la fin n'arrive. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le 7 mai 1946, le prédicateur baptiste américain William Branham, comme Paul, acte 9, 1 à 9, reçut un appel céleste. Il avait déjà été dit à ce simple prédicateur, le 11 juin 1933, par une voix venant d'une nuée lumineuse surnaturelle, qui fut visible pour les 3000 personnes présentes, alors qu'il baptisait dans la rivière Ohio. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Les journaux, et en particulier United Press International, ont rapporté cela. Par lui, le réveil de guérison débuta spécialement au sein des églises pentecôtistes, et s'est rapidement répandu sur toute la terre. Il était un homme envoyé de Dieu avec le message de la parole de Dieu, lequel précède la seconde venue de Christ. Investi de l'autorité divine et du don de guérison, il a prêché, dans des services d'évangélisation à des milliers de personnes, appelant les pécheurs à se repentir, et à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Par sa prédication, des milliers ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Dans la prière pour les malades, après la prédication, même des aveugles recouvraient la vue, des paralytiques pouvaient marcher, et plusieurs étaient guéris de toutes sortes de maladies. J'ai expérimenté son ministère extraordinaire de 1955 à 1965, comme un témoin oculaire et auriculaire, et je porte la grande responsabilité de dire au monde entier ce que Dieu a fait dans notre temps. En 1949, alors que j'étais un jeune homme, j'entendis pour la première fois parler de William Branham, et des choses extraordinaires qui se produisaient dans son ministère. J'eus le désir d'entendre cet homme de Dieu en personne. En août 1955, ce souhait se réalisa, j'assistai aux réunions bénies de frère Branham, à Karlsruhe, et j'eus le privilège de faire sa connaissance personnellement. Lors de notre première rencontre, en me saluant il me dit, « Tu es un prédicateur de l'Évangile. » À partir de ce moment, j'ai voulu savoir ce que cet homme de Dieu croyait, et enseignait. En juin 1958, lors de la grande conférence Voice of Healing à Dallas, Texas, aux États-Unis, j'ai de nouveau été convaincu par la confirmation divine de son ministère, et j'ai pu lui parler à nouveau. Il m'a dit, « Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » Dès lors, j'ai reçu ses prédications enregistrées sur les bandes magnétiques. Lors de notre troisième rencontre, le 3 décembre 1962, frère Branham confirma mon appel du 2 avril 1962, et déclara, « La nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. » La proclamation du plein évangile comprend le salut de l'âme et la guérison du corps. Comme le Seigneur l'a dit dans l'ordre de mission, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, 17 et 18. Lors de la prière pour les malades, l'homme de Dieu s'est aussi référé aux paroles de notre Seigneur écrites dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Aujourd'hui, nous entendons parler de guerre, de menaces nucléaires, du conflit au Proche-Orient, du réchauffement de la planète, du changement climatique, des catastrophes naturelles mondiales. Tout devient incontrôlable. En même temps, nous nous souvenons aussi des paroles du prophète Ésaïe, qui a prédit, « La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relève plus. » Ésaïe 24, 19b et 20. Nous voyons les signes des temps, le temps de la fin est là, sa venue est proche. Mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Le retour promis de Christ nous est décrit dans de nombreux passages bibliques. Le Sauveur lui-même en a donné la promesse principale dans Jean 14, 3. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tous les fils et les filles de Dieu peuvent compter sur les promesses de Dieu. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. Lors de la première venue de Christ, plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Il s'est passé des choses surnaturelles. Le Seigneur Jésus a prêché, il a enseigné, et guéri tous les malades qui venaient à lui. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Matthieu 12, 15b. Pour pouvoir expérimenter réellement notre préparation, nous devons respecter, et croire la promesse de notre temps, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable. Malachie 4, 5. Notre Seigneur l'a répété et confirmé dans Matthieu 17, 11 et dans Marc 9, 12. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est la promesse la plus importante qui s'accomplira avant la seconde venue de Christ. Tout comme Élie a appelé le peuple d'Israël sur le mont Carmel, pour qu'il prenne sa décision, maintenant de même, tous ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu sont appelés à prendre leur décision. Avant la seconde venue de Christ, tout doit être ramené à son état d'origine, comme au commencement, dans l'Église du Seigneur. Acte 3, 18 à 21. Autant ce qui concerne la vie personnelle, le couple, la famille, ou la vie spirituelle de l'Église, tout doit retourner dans l'ordre divin, tel que cela est déterminé dans la Bible. Pour ce faire, chaque croyant doit se tenir du côté de Dieu sans résistance intérieure. 1 Roi 18, 21 à 39. Tous les croyants qui appartiennent à l'Église du Dieu vivant retournent à Dieu de manière absolue, à la parole, et la volonté de Dieu, à l'enseignement, et à la pratique de l'Église authentique du commencement. De tout temps, ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu ont cru chaque parole de Dieu. Même au cours des 500 dernières années, il y a toujours eu des personnes qui ont cru aux messages respectifs proclamés à leur époque. Il en fut de même avec le réveil de la Pentecôte. Maintenant, tous ceux qui trouvent grâce auprès de Dieu croient au message biblique original. Maintenant, il n'est plus question que quelque chose soit réformé dans l'ensemble du christianisme, ou que quelque chose soit corrigé dans le mouvement pentecôtiste. Maintenant, il est question que tous les croyants bibliques expérimentent la pleine restauration, et soient édifiés sur le fondement original. Les rachetés qui croient vraiment la parole de Dieu maintenant, ne restent pas dans la confusion babylonienne, mais ils sont sanctifiés par la parole de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Nous sommes arrivés à la période la plus importante de l'histoire du salut. Le retour promis de Christ est imminent. Par conséquent, c'est avec un grand sérieux que nous devons prendre ce que notre Seigneur a dit. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Au moins, ceci devrait être clair pour tous. Seuls les rachetés, qui, par le sang de la nouvelle alliance, ont personnellement expérimenté le pardon, et ont reçu la vie nouvelle divine par la nouvelle naissance, prendront part à l'enlèvement. L'apôtre Pierre décrit l'expérience du salut par la nouvelle naissance comme suit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Luc 8, 11. Le retour du Rédempteur était l'un des principaux thèmes de l'ère apostolique. De nombreux passages de la Bible en parlent. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul décrit exactement comment cela va arriver. À la fin du cinquième chapitre, il écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 23. Notre Seigneur et Rédempteur s'est lui-même désigné en tant qu'époux, et il a souvent parlé du festin des noces. Ceux qui appartiennent à l'Église épouse acceptent la parole promise pour ce temps, et ils entendent le cri, l'époux vient. Matthieu 25. Et se laisse préparer pour le jour glorieux. Il est prédit, dans Matthieu 25, 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Dans Apocalypse 19, 7, nous lisons, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Le Seigneur a préparé une ville, pour les racheter. Et il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. Maintenant se fait entendre le message divin, qui est le dernier appel avant la seconde venue de Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils, et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. C'est le moment de l'appel à sortir de toute erreur, de toutes les traditions non bibliques. C'est maintenant le temps de la préparation, le temps de croire seulement ce que l'Écriture dit. Maintenant, comme au commencement, tous les croyants bibliques doivent être baptisés, par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun croyant ne devrait rejeter le salut de Dieu comme l'ont fait les scribes à leur époque. Luc 7, 30. En rapport au ministère de Jean-Baptiste, notre Seigneur a demandé à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Il demanda à nouveau. Qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Ou êtes-vous allé voir un prophète? Jésus répondit, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Matthieu 11, 9 et 10. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 13. À partir de ce moment-là, le royaume de Dieu a été proclamé. Que sommes-nous allés voir? Voulions-nous entendre un prédicateur de la prospérité? Un prédicateur charismatique de la télévision? Non. Bien sûr que non. Nous avons reconnu que, après 2000 ans, l'homme envoyé de Dieu, William Branham, a de nouveau prêché tout le conseil de Dieu. Acte 20, 27. Nous sommes allés entendre le message original sortant de la bouche d'un homme mandaté, lequel aussi reçut l'instruction directe, venant de la nuée surnaturelle, d'aller prêcher sur les sept sceaux de l'Apocalypse dans son église locale, à Jeffersonville, alors qu'il se trouvait à la montagne Sunset, à 40 miles, 65 kilomètres de Tucson en Arizona, USA. Le 28 février 1963. C'est ce qu'il fit, du 17 au 24 mars 1963. Le magazine américain, Science, a publié la photographie du nuage, le 19 avril, le magazine Life, le 17 mai 1963. Non seulement les sept sceaux, mais tous les mystères cachés, chaque doctrine, sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur, etc., tout nous a été proclamé de manière authentique, comme l'enseigne la Bible. Bien que le prophète ait été repris en décembre 1965, le message nous est resté, et a été apporté dans le monde entier. L'Église de Dieu est à nouveau le pilier, et le fondement de la vérité, au lieu d'un édifice religieux de mensonges. Il n'existe pas d'interprétation, d'hérésie, dans l'Église de Jésus-Christ. Par le message final, qui concorde à 100% avec le message du commencement, l'Église a été édifiée sur le fondement original. Le sceau de Dieu a été promis aux véritables croyants bibliques en tant que confirmation. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Avant que cela puisse arriver, tous doivent sortir de la confusion des interprétations, car Dieu ne posera son sceau que sur la pure et épouse parole. Depuis que j'ai reçu mon appel direct, le 12 avril 1962, j'ai proclamé la parole de Dieu, le plein évangile, le pur message pour ce temps dans le monde entier, et distribué la nourriture spirituelle. Matthieu 24, 45 à 47. Maintenant que j'ai aussi pu prêcher au Koweït, et au Bahreïn, en novembre 2017, cela fait exactement 165 pays que j'ai visités lors de mes voyages missionnaires mensuels, au cours des 55 dernières années. J'ai prêché dans des capitales telles que Moscou, et Pékin, à Damas, et au Caire, ainsi que dans de nombreuses autres villes du monde. Par ailleurs, des émissions de télévision de 30 minutes diffusées en anglais sur 56 chaînes de télévision ont également permis à des millions de personnes à travers le monde de prendre connaissance de tout le conseil de Dieu. Mes prédications sont diffusées par des chaînes de télévision locales dans plusieurs pays. Nos réunions mensuelles, chaque premier week-end du mois au centre missionnaire de Krefeld, sont écoutées ou regardées par des milliers de personnes dans le monde entier, que ce soit en direct sur Internet, ou sur CD ou DVD que nous envoyons gratuitement. Dieu a pris soin pour que les sermons de chaque premier week-end ici au centre missionnaire soient traduits simultanément en 15 langues, et pour que le message qui précède la seconde venue de Christ soit aussi traduit dans toutes les langues du monde. Ce que Dieu fait actuellement est unique sur la terre. Ainsi, l'Évangile éternel est proclamé à tous les peuples, et à toutes les langues comme le dernier message. Apocalypse 14, 6. Matthieu 24, 14. Tous les vrais croyants bibliques savent que la fin des temps est là, et que sa venue est imminente. Ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises au travers de la parole révélée, et ils se laissent préparer pour le jour glorieux de l'enlèvement. Je peux attester devant Dieu, comme l'a dit Miché dans notre parole d'introduction, de n'avoir transmis que ce que le Seigneur nous a légué dans sa parole. Le Seigneur dit, « Et voici, je viens bientôt. Et tous les véritables auraient des écrits, Amen, viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22. Jérusalem. La pierre pesante. Israël. 1948. 2018. Une voix crie avec force. Vous tous, peuple, entendez. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 3. Par la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël, le 6 décembre 2017, et son annonce d'y déplacer l'ambassade américaine, le président américain Donald Trump a touché le principal point de discorde. Quelques jours plus tard déjà, l'Assemblée générale des Nations unies a publié une résolution appelant les États-Unis à retirer la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. La demande avait été déposée par la Turquie et le Yémen. Parmi les 128 États qui ont voté dans le sens de cette résolution figurent l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Koweït, ainsi que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Tous les politiciens et les dirigeants devraient se pencher sur l'histoire. Déjà en son temps, Abraham est allé avec Isaac au mont Morija pour offrir personnellement un sacrifice à Dieu. Genèse 22. C'est le mont du Temple à Jérusalem. Jérusalem est cité 780 fois dans la Bible. David a acheté l'aire d'Ornan le Jébusien, et la lui a payé avec de l'or d'un poids de 600 sicles. 1 Chronique 21, 25. Lors de l'achat, il déclara, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » 1 Chronique 22, 1. David a régné pendant 33 ans à Jérusalem, il y a 3000 ans, et son fils Salomon a régné pendant 40 ans à Jérusalem. Salomon y construisit le temple par l'ordre direct de Dieu. Il était principalement question de l'arche de l'Alliance, dans laquelle était la parole de Dieu. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'Alliance de l'Éternel, l'Alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. 1 Roi 8, 21. Selon 1 Roi 8, la gloire surnaturelle remplit visiblement le temple lorsqu'il fut achevé. C'était le choix de Dieu de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Aujourd'hui, aucune capitale du monde n'est aussi ancienne que Jérusalem. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, les Israélites furent déjà le peuple particulier, l'héritage de Dieu le Seigneur. Il leur a donné les promesses suivantes pour ce temps. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Ézéchiel 36, 24. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ésaïe 14, 1. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ézéchiel 39, 25 et 27. Dans Luc 21, 24, le Seigneur dit, « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le temps est très proche, toutes choses s'accomplissent. » Ésaïe avait prophétisé, « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ésaïe 2, 2 et 3. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2, 12. Amen. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'œil sur elle. Ésaïe 66, 10. Lorsqu'il entrera dans son règne, le Seigneur Dieu posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Zacharie 14, 4. Alors les 24 vieillards adoreront Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, car tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de ton règne. » Apocalypse 11, 17. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, en décembre 1917, le commandant britannique Allen Bailey prit la ville de Jérusalem, qui était sous la domination ottomane depuis 400 ans. Depuis lors, toute la région, connue sous le nom de Transjordanie, fut sous l'administration britannique, jusqu'en 1948. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Le 14 mai 1948, Ben-Gourion proclama l'État d'Israël. Jusqu'en 1979, tous les groupes ethniques vivaient ensemble pacifiquement. Ce n'est que lorsque l'ayatollah Khomeini eut renversé le Shah d'Iran, qui était un ami d'Israël, qu'il déclara l'hostilité de l'Iran envers Israël. Jusqu'au soulèvement de la seconde intifada en 2000, nous pouvions même nous rendre dans la bande de Gaza avec notre groupe, lors des voyages organisés. Aujourd'hui, cela n'est malheureusement plus possible. Par la loi fondamentale de Jérusalem, le Parlement israélien a déclaré, en 1980, que Jérusalem était la capitale indivisible d'Israël. Le 2 janvier 2018, la Knesset a modifié l'ancien accord de 1980, et a adopté la loi sur Jérusalem unifiée. Celle-ci stipule que toute décision sur le statut de Jérusalem ne peut être prise qu'à la majorité des 2/3 de la Knesset. Une nouvelle ère a commencé. Maintenant, Jérusalem est devenue manifestement une pierre pesante. Suite à la déclaration de Donald Trump, le 11 décembre 2017, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a visité l'Union européenne à Bruxelles. Il a fait une brève déclaration, et a été humilié, et accueilli avec mépris, par la haute représentante de l'Union européenne, Frédérica Mogherini. L'Union européenne appelle à un retrait de la déclaration de Trump. Apparemment, la puissance mondiale des États-Unis d'Amérique doit être remplacée par les États-Unis d'Europe. Il y a des aspirations au sein de l'Union européenne, dont le certificat de naissance remonte au traité de Rome, pour y parvenir d'ici 2025. Selon la prophétie biblique, ce sera le 4e grand empire, la dernière puissance mondiale, comme l'avait prophétisé le prophète Daniel. En mai 2018, 70 ans se seront écoulés depuis la fondation de l'État d'Israël. Le pays comptait 850 000 habitants à la fondation de l'État, et à peine 10 ans plus tard, le nombre était déjà 2 fois plus élevé. En 1990, la population était de 4 500 000 habitants. Aujourd'hui, on parle d'environ 8,7 millions. Le processus de paix va suivre son cours, afin que s'accomplisse, quand les hommes diront « paix » et « sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 3. Cependant, il arrivera aussi ce que le prophète Joël a prophétisé, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda, et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Joël 3, 1 et 2. Nous vivons au milieu de l'accomplissement des prophéties bibliques de la fin des temps. Il est regrettable que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, et de nombreux chefs d'État, ne respectent pas la décision de Dieu. Nous sommes dans une grande expectative depuis le début de l'année 2018, et nous nous attendons à ce que le Seigneur fidèle achève son œuvre de rédemption avec l'Église des nations, et qu'il nous prenne dans l'enlèvement, comme il est écrit. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Personne ne sait exactement quand cela arrivera, c'est pourquoi nous devons être prêts. Ensuite, il achèvera son œuvre avec Israël sous le ministère des deux prophètes. Apocalypse 11, et son règne du millénium commencera. Amen. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, 15. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. La photo montre la réunion spéciale du samedi 16 septembre 2017, à Constanța, en Roumanie, près de la mer Noire. Non seulement des croyants ont assisté à cette réunion, mais également des personnes qui ont écouté pour la première fois une prédication. Parmi les plus de 100 personnes qui se sont avancées pour la prière, il y avait un journaliste de presse islamique, et un homme de l'église orthodoxe. Les deux ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, et ont été baptisés bibliquement 2 semaines plus tard dans la mer Noire avec tous les autres nouveaux convertis. Que le Seigneur fidèle soit remercié. Comme on peut le voir sur la carte de gauche, c'est ainsi que Josué a réparti la terre promise, entre les 12 tribus, selon les chapitres 13 à 20. 2 tribus et demie se trouvaient du côté est du Jourdain. C'est ainsi qu'Ézéchiel l'a revu dans le royaume millénaire, selon les chapitres 47 et 48. Au chapitre 47, il vit déjà le temple qui sera bâti. Au chapitre 48, nous voyons les 12 tribus dans leur héritage. Sur la carte de droite, nous voyons ce que les politiciens ont fait de la Terre Sainte. Ils qualifient Israël de puissance occupante, et le cœur du pays, de territoire occupé. Cela ne restera pas comme ça. Dans le millénium, l'ordre divin sera rétabli en Terre Sainte.